l'occasion de la Nuit européenne des musées qui aura lieu ce soir, c'est un artiste habitué de tous les musées du monde, ou presque, qui nous accompagne ce matin. En ce moment, outre une exposition à la Galerie Perrotin à Paris qui le représente, une autre à Doha au Qatar, une à Houston aux États-Unis. Pour les 30 ans de la pyramide, le musée du Louvre l'a invité à réaliser une œuvre logique pour cet artiste qui pendant ses années d'études a été gardien de jour et de nuit au Louvre. Alors pour cette création originale, il s'est inspiré d'un détail d'un tableau de Rubens qu'il a décliné en 6 peintures et un livre. Jean-Michel Autoniel, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, merci d'être avec nous ce matin.
C'est moi, merci.
On est au petit matin, mais donc la nuit n'est pas très loin. La nuit prochaine sera donc la Nuit européenne des musées. Est-ce que vous vous souvenez de ces années où vous étiez gardien du musée du Louvre?
Je me souviens très très bien de ces années parce que c'était des années d'études, de formation, c'est quand j'étais aux Beaux-Arts et donc j'avais trouvé ce job incroyable puisque c'était être vraiment dans un livre ouvert puisque chaque matinée on nous donnait une salle nouvelle et on découvrait donc chaque jour des nouvelles peintures, des nouvelles sculptures et c'était pour moi formidable parce que j'apprenais, je regardais, j'étais un bien piètre gardien de musée.
Mais c'est quoi le travail en fait du gardien de musée?
Bah c'est quand même faire attention aux œuvres, c'est-à-dire que les gens
ne les touchent pas,
ne les frottent pas ou ne fassent pas sonner les systèmes d'alarme pour rien, des choses comme ça.
Et alors gardien de nuit, ça veut dire quoi quand il n'y a plus personne dans le musée? S'assurer qu'il n'y a personne déjà, à part Belphégor peut-être.
Non, gardien de nuit c'est un moment unique dans une vie d'artiste parce qu'on découvre les œuvres différemment. Donc peut-être pour la Nuit des musées, les gens ont cette chance-là d'être dans une intimité donnée par l'obscurité. On se promenait comme ça à la lampe torche dans les galeries du Louvre. C'est des souvenirs inoubliables, de rêves d'enfant, de courir comme ça la nuit dans les galeries. C'était vraiment des moments uniques. Oui.
Alors, je ne suis pas sûre que la Nuit européenne des musées permette au public d'être avec la lampe torche parce que l'idée, c'est qu'il y ait du monde dans les musées, contrairement à vous qui pouviez courir, gambader et profiter de chaque œuvre quand vous étiez dans la Nuit des musées. Il se trouve qu'en plus d'être la Nuit européenne des musées, c'est donc les 30 ans de la pyramide du Louvre cette année. Et il se trouve que l'architecte de cette pyramide nous a quittés il y a 2 jours, on l'a appris hier matin. Paye, il avait quand même 102 ans. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Jean-Michel Autoniel?
Alors, j'ai rencontré son fils au moment de l'anniversaire, puisque moi, j'ai connu le Louvre avant la pyramide, hein. Donc j'étais gardien avant la pyramide. Et puis, il y a eu ce grand changement, cette pyramide formidable, ce signe dans Paris. Et lui, je l'ai jamais rencontré. J'ai vu son fils, donc, quand on a lancé ses 30 ans de la pyramide, qui a le même sourire que son père, qui a le même charisme. Pour moi, c'est un architecte assez incroyable. En fin de compte, j'ai vraiment découvert son travail quand je suis allé en Chine, à Shuzhou, qui est la ville où il avait sa maison de famille. Et on se rend compte vraiment que c'est un architecte qui vient d'une famille d'il y a presque 2 siècles, puisqu'il avait 102 ans, donc il est né juste après 1900. Et on voit dans cette maison comment il a été élevé. C'est une maison de lettrés avec des jardins incroyables, avec des pierres de lettrés justement qui servent à la contemplation, des architectures un peu construites comme des paravents. Et j'imaginais l'enfant érudit qu'on avait formé presque comme le dernier empereur de l'architecture. Et je crois que ça m'a vraiment fait aimer encore plus son travail. Parce que je pense pas que ce soit un architecte de l'émotion. C'est pas quelqu'un qui vous crée une émotion. C'est plutôt une architecture cultivée.
Précisément, vous le dites cultivé, j'attendais que vous terminiez votre phrase. Mais effectivement, érudit, comme l'était Paye, mais aussi très cultivé, à tel point que quand il est venu en France, il a dû, raconte-t-il, se cultiver pour comprendre d'où venait cette culture, cette civilisation française. Écoutez-le, c'est juste au moment de l'inauguration de la pyramide sur France Culture, Archivina, du 1er avril 1989.
La tradition culturelle de la France a quelque chose qui le distingue. C'est la continuité formidable. En commençant ce projet au Louvre, c'était comme si j'entrais au cœur de la France, au cœur de la civilisation française. Les difficultés des premiers mois en traitant ce projet, ce que nous entreprenons au Louvre est toujours très impliqué dans la vie politique. Il n'est pas meilleur exemple de la façon qu'un architecte doit travailler dans des conditions de prendre en considération l'histoire et la culture d'un pays comme la France.
Est-ce que vous travaillez de cette façon-là, vous, Jean-Michel Autoniel ? Vous n'êtes pas architecte, mais vous êtes artiste, vous êtes sculpteur.
Moi, je suis un artiste, oui, qui regarde beaucoup le passé. C'est-à-dire que j'adore m'inspirer des siècles avant moi, quand j'ai fait le projet à Versailles, par exemple, sur les belles danses. C'était vraiment un dialogue avec le nôtre, avec le Brun, et aussi Louis Bénèche qui était vivant, qui a fait ce projet avec moi. Mais c'était vraiment un dialogue avec l'histoire, et on avait cette même vision avec Louis Bénèche de créer une continuité, de s'abstraire de cette idée de la fracture, comme quoi l'art contemporain devrait toujours être en fracture. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à aller chercher dans les pas de la danse baroque des formes contemporaines qui ressemblent évidemment à mes sculptures, puisque quand on les voit, on a l'impression de voir des sculptures complètement miennes, et en même temps ce sont vraiment des retranscriptions des pas de danse baroque. Donc quelqu'un qui sait lire la danse baroque voit le roi danser sur l'eau.
À partir du 24 mai, Jean-Michel Autoniel, une œuvre de vous encore inédite sera installée dans la cour Puget du musée du Louvre. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça va ressembler ?
Oui, enfin ça c'était un projet très compliqué parce que pour moi arriver au Louvre c'est évidemment pas anodin, je pense que pour tout artiste français, j'avais déjà exposé...
Pas de continuité là justement, vous vous inscrivez peut-être dans les pas et pas encore une fois en rupture.
Donc là, c'était ce qui est formidable, c'est que c'est un projet qui est né d'une recherche minutieuse à travers les collections et un travail de photographie sur la symbolique des fleurs dans les peintures, dans les sculptures, dans tous les départements. Et puis de là sont nées 6 peintures inédites que j'ai pu montrer dans la cour Puget, puisqu'il y avait là 6 niches qui attendaient d'être habitées. Et donc j'ai fait en fin de compte une grande installation qui ressemble plus à une installation de sculpture, puisqu'on pourrait penser, enfin c'est vraiment l'espace qui est pris en compte grâce à ces peintures.
La Rose du Louvre. C'est ça ?
Oui, c'est alors l'exposition s'appelle La Rose du Louvre.
Parce que pourquoi la rose, évidemment ?
Alors, pourquoi la rose ? Parce que dans toutes ces peintures que j'ai visitées pendant plus d'un an au Louvre, je cherchais évidemment toutes les fleurs symboliques qui pouvaient éclairer le sens des tableaux.
Et il y en a beaucoup !
Et il y en a beaucoup, puisque ne serait-ce que les roses, j'avais cette intuition que le Louvre devait être personnifié par une rose. Parce que, bon, la rose, c'est la reine des fleurs, le Louvre étant le roi des musées, il y avait une sorte de... comme ça, d'évidence. Mais quand j'ai demandé aux conservateurs des différents départements de me recenser toutes les roses qu'ils avaient dans leurs notices, ils sont venus vers moi avec une liste de 5000 roses. Donc je me suis dit...
Dans la cour Puget, vous n'aurez pas la place d'en mettre 5000.
Non, mais surtout comment trouver la rose.
Et puis la rose parmi les 5000, c'est
parmi les 5000. Et ça a été la gageure. Et j'avais envie d'une rose qui soit très forte, puisqu'il fallait qu'elle annonce le musée, elle annonce son histoire, elle montre à quel point elle était aussi importante dans l'histoire de la peinture. Et donc j'ai découvert ça au pied de Marie de Médicis dans une peinture de Rubens.
Oui, le mariage d'Henri IV et de Marie de Médicis. Et alors comment vous l'avez représenté, Jean-Michel Autoniel, à partir de là ?
Alors à partir de là,
est-ce que vous vous l'êtes approprié cette rose ?
Oui, j'ai fait presque un travail classique, un peu comme ces peintres qui allaient à la Villa Médicis au 19e et qui copiaient les antiques. Moi, j'ai regardé cette rose attentivement et j'en ai sorti une série de dessins. Et de ces dessins, j'ai fait des peintures. Mais c'est vraiment dans l'idée de l'observation sur la peinture, alors que d'habitude, je suis plutôt quelqu'un qui regarde en contemplation la nature. Donc là, j'ai vraiment repris ce dessin de Rubens. J'ai vu la qualité de son trait qui est incroyable, parce que si cette rose m'a plu, c'est qu'elle annonce aussi toute la peinture moderne.
Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette vêprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil, et son teint au vôtre pareil. Voyez comme en un peu d'espace, mignonne est là-dessus la place. Hélas, ses beautés laissent échoir. Oh, vraiment, marâtre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusque au soir, que du matin jusque au soir.
Voilà, Mouloudji chantant ce poème de Ronsard. Mignonne, allons voir si la rose, Jean-Michel Autoniel, il y a la rose, mais vous le disiez à l'instant, vous êtes habituellement un contemplatif de la nature. Les fleurs, vous les aimez depuis toujours. Vous racontez dans le livre qui vient de paraître et dont on va parler, L'herbier merveilleux, que vous les dessiniez quand vous étiez petit. Et donc aujourd'hui, vous êtes à la recherche du sens symbolique dans les œuvres picturales de ces fleurs. C'est un peu une obsession en fait, le sens caché des fleurs chez vous.
C'est, on pourrait dire, un hobby, parce qu'on me pose toujours cette question, vous, en tant qu'artiste, quel est votre hobby? Et donc, mon hobby, ça serait ça. Ça serait, dès que je trouve une petite note sur la symbolique des fleurs, je la collectionne. Et j'avais collectionné ça depuis mon adolescence. Alors, venant de livres savants comme de revues populaires, il n'y avait pas une recherche scientifique ou spirituelle vraiment derrière ça. Et j'ai accumulé ces notes, et un jour, Actes Sud m'a demandé de si je voulais pas les publier. Donc, il a fallu que je les réécrive, parce que je suis pas écrivain, donc je me suis attelé à la réécriture de ces notes que j'avais accumulées. Et puis après, j'ai voulu les illustrer, donc je me suis dit, il faut que je fasse les photographies de chaque fleur qui illustre le texte. Donc pendant 2 ans, j'ai couru selon les saisons, soit après une marguerite, soit après une Véronique, soit après une rose. Et puis après, avec ce projet du Louvre, je suis allé vraiment chercher dans les peintures, ces fleurs-là, ces fleurs que j'avais photographiées, et j'essayais qu'elles soient le plus proches de leur symbolique, puisque j'avais, pour une fois, je dirais, un choix incroyable. Pouvoir choisir une fleur parmi les fleurs ou une marguerite parmi 300 marguerites au Louvre, c'est un rêve d'enfant presque, de se dire quelle fleur choisir dans quel tableau. Donc rapprocher encore plus proche de la symbolique de la fleur grâce au tableau. Et ce livre est un bijou parce que ce ne sont que des détails de chef-d'œuvre. Et c'est très rare de pouvoir faire un exercice comme cela quand on est artiste,
je pense.
J'ai
procédé un peu à la manière de Daniel Arras avec le détail. On a sur le côté gauche de la page, effectivement, le détail où l'on voit apparaître la fleur. Et vous avez des bons yeux, Jean-Michel Autoniel, qui êtes allé observer parmi toutes ces toiles les fleurs qui apparaissaient parfois très discrètement. On retrouve le chardon dans l'autoportrait de Dürer, la pivoine dans la chemise dégrafée de la jeune fille à la cruche cassée de Greuze, la palme au bras de Sainte-Apolline de Zurbaran et bien d'autres encore. Et des explications donc sur la page de droite de ce sens caché des fleurs. C'est ça, cet herbier qui s'appelle donc l'herbier merveilleux, note sur le sens caché des fleurs du Louvre. Un travail qui est à la fois un travail d'artiste, mais aussi un travail sur l'art d'un artiste qui travaille sur l'art.
Oui, puis c'est presque un projet conceptuel, en fin de compte, se dire, voilà, rechercher le sens des fleurs. Moi, ce qui m'a toujours fasciné dans ce sens des cachés des fleurs, c'est qu'elles viennent éclairer la peinture. Et surtout, elles viennent en donner une narration qui n'est plus en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Et ça, c'est très important pour les gens aujourd'hui qui regardent la peinture, qui ne regardent plus les fleurs, qui regardent les fleurs aujourd'hui, malheureusement, on regarde peut-être un peu à côté. Et là, ces petits détails qui, à une époque, étaient des signes, mais très violents, très précis. Par exemple, quand on voit, la nativité d'un enfant, Jésus, avec sa mère dans le jardin, la Vierge Marie, comme ça, très calme, et que derrière, dans ce jardin presque désert, il y a juste une fleur qui est un coquelicot. Quand on sait que le sens caché du coquelicot, c'est la goutte de sang du Christ qui tombe de la croix et qui vient toucher le sol, cette peinture, ça devient un film. C'est-à-dire qu'on a le début, et on a la fin. Et donc, pour les gens, à l'époque où cette symbolique était très présente, on leur racontait vraiment des histoires, une narration dans le temps. Et ces images n'étaient pas plates, elles étaient vraiment des images comme ça qui nous amenaient à travers toute une connaissance. Alors, souvent, c'est lié à la religion catholique, mais ça peut être aussi lié à la religion musulmane ou même au savoir, presque trivial de certaines fleurs qui peuvent rappeler... Par exemple, la honte, comme la pivoine.
L'idée, c'est donc que les spectateurs puissent regarder autrement, peut-être mieux, les œuvres, d'aller chercher les détails, les comprendre mieux. Est-ce que vous envisagez, Jean-Michel Antoniel, qu'on puisse avoir l'herbier merveilleux dans les mains et qu'on se promène dans les allées du Louvre et qu'on s'arrête presque au hasard pour regarder votre livre en même temps que les œuvres?
Alors ça, c'est mon rêve. C'est pour ça que j'ai voulu un format petit. Un format qui peut rentrer dans une poche, qu'on a fait avec Actes Sud, donc dans ce format en longueur, ils sont très connus pour ça. Et donc, ça permet justement de se promener dans le musée et s'arrêter devant une marguerite, même si c'est pas celle que moi j'ai choisie. On va pouvoir lire la symbolique de cette fleur et voir comment cette fleur, quel sens elle a dans ce tableau-là.
Ça, c'était pour quitter le thème des fleurs avec ce duo des fleurs sublimes dans l'acmé de Léo Delibes, chanté par Anna Netrebko et Lina Garenka. Jean-Michel Autoniel, vous nous disiez vous-même, c'est beau, c'est très beau, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, c'est une vision, je dirais, qui vous élève, enfin un son qui vous élève, mais je pense que l'art, c'est fait pour ça aussi, c'est pour vous amener ailleurs, rendre la vie plus belle que la vie, oui.
Souvent, d'ailleurs, on vous présente comme l'artiste de la beauté. Vous dites vous-même, hein, d'ailleurs, que vous souhaitez instaurer un rapport d'émerveillement face au monde. L'herbier merveilleux en fait partie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche, la façon dont on vous présente? Parce que artiste de la beauté, on peut voir ça de façon assez ambivalente, ou en tous les cas dans la bouche de certains, mal intentionnés. C'est pas forcément très positif, Jean-Michel Autoniel. Comment renverser ça pour proposer une approche poétique du monde qui soit affirmée, revendicative et certainement belle?
Non, je pense que c'est une vision très occidentale de la beauté. Moi, j'ai appris à aimer la beauté en voyageant, parce qu'au départ, je culpabilisais de faire des œuvres belles. J'ai lutté longtemps pour que les œuvres soient moins belles que ce que je pouvais faire. Et puis un jour, en voyageant en Asie, je me suis rendu compte que la beauté, c'était une étape vers la spiritualité. Et ça m'a beaucoup conforté dans ce choix. Et je me suis dit, c'est vrai que grâce à la beauté, à la contemplation, au merveilleux, qui sont peut-être des mots galvaudés dans notre langage, mais qui amènent vraiment à un autre regard sur le monde, un regard optimiste. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je pense que à travers justement l'écoute, le regard, on peut arriver à se surpasser et à faire une civilisation meilleure.
Jean-Michel Autoniel, c'est ça qui vous a fait travailler sur un certain nombre de matériaux, parce que les matériaux sont importants, je pense, pour un artiste, qui plus est un artiste sculpteur. Donc vous êtes passé du soufre au verre, et puis maintenant les briques. Est-ce que c'est les matériaux qui sont au départ dans la conception du beau que vous avez aujourd'hui, disons?
Au départ, ce sont des dessins. Je dessine, je fais des aquarelles et je construis, je dirais, un univers de papier et que j'arrive à réaliser parfois dans la réalité. Donc c'est vrai que les matériaux sont importants parce que ce sont des portes d'entrée, je dirais, dans un univers. Et le verre, c'est un peu comme un piège à rêve. C'est-à-dire que tout le monde a un rapport émotionnel à ce matériau. C'est un matériau qui est lié à l'enfance. C'est pas un matériau prétentieux, c'est un matériau que tout le monde connaît. C'est un matériau qui vous laisse entrer et aussi qui laisse entrer la lumière et qui permet de faire des œuvres vivantes, des œuvres qui sont toujours différentes.
Nous aussi, il faut qu'on laisse entrer quelqu'un ici. C'est l'heure des titres de l'actualité. Il est 7h30 sur France Culture. Jean-Michel Autoniel, on vous retrouve d'ici 2 minutes. Restez bien sûr avec nous. On retrouve notre invité Jean-Michel Autoniel, artiste, élu à l'Académie des Beaux-Arts en novembre 2018 dans la section sculpture. Jean-Michel Autoniel qui a été invité donc par le musée du Louvre à célébrer d'une certaine façon et à sa façon à lui les 30 ans de la pyramide. On entendait Jean-Michel Autoniel les titres de l'actualité. J'aimerais juste vous demander quel est votre rapport à vous, à l'actualité. Je vous pose cette question parce qu'en 2005, vous aviez fait un hommage aux exilés réalisé à partir d'une barque de réfugiés cubains trouvée à Miami, ça s'appelait le bateau de larmes. En 2018, vous avez réalisé The Big Wave, c'est-à-dire la grande vague, qui était inspirée par le tsunami au Japon, où vous étiez au moment du tsunami. Et vous dites souvent que l'artiste est comme une plaque photosensible. C'est parce que l'artiste est une plaque photosensible que l'actualité résonne dans vos œuvres particulièrement, à certains moments en tout cas.
Moi, je viens d'une génération d'artistes qui a plutôt développé ce qu'on appelait les mythologies personnelles, c'est-à-dire que l'idée qu'on soit dans un monde et que notre monde clos soit ce monde-là qu'on devait mettre en avant. Et au cours des années, je me suis rendu compte que le monde rentrait en moi. C'est-à-dire que je ne pouvais échapper justement à ces grands bouleversements. Et même si ce ne sont pas des thèmes que je donne à mon travail, ce sont des rencontres. Et ces rencontres font qu'elles transparaissent à travers les œuvres. C'est pour ça que j'ai appelé l'exposition chez Perrotin Oracle. Parce que justement, j'ai ce sentiment qu'on est, nous, en tant qu'artistes, en général, on est une position très oraculaire sur le monde. On va donner un sentiment peut-être avant même qu'on ait pu le formuler. Et c'est vrai que ce bateau de larmes que j'avais fait avec un bateau d'exilés cubains, que j'ai fait donc il y a maintenant plus de 15 ans, enfin une quinzaine d'années.
2005. Voilà. C'était 14 ans, oui, c'est
14
ça.
Ans. Je l'ai fait par intuition. Et aujourd'hui, cette œuvre me revient dans la figure, je dirais, comme quelque chose tellement dans l'actualité, alors qu'il avait été fait comme, au départ comme un hommage à cette idée de l'exil, du départ, quitter son pays, presque un hommage poétique, je dirais, à ces migrants, qu'on n'appelait pas les migrants à l'époque, mais... Et je crois beaucoup à ce regard d'artiste et je trouve que les artistes ne sont pas assez consultés d'ailleurs dans le monde parce qu'on est toujours un peu en avance. On voit par exemple Land Art a parlé des problèmes environnementaux dans les années 70 qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc toutes ces choses-là ont été déjà formulées bien avant par des artistes plasticiens.
Mais par qui aimeriez-vous être consulté ?
Alors, c'est peut-être ce que j'ai cherché à l'Académie, c'est que l'Académie des Beaux-Arts a un rôle auprès de l'État, où on est consulté sur des grandes questions liées à la culture, et je suis assez heureux de ça, même si c'est une voix qui est portée par tous, qui n'est pas ma voix personnellement, qui est une voix, un consensus formellement, mais c'est ce que je recherche, je crois, dans cette Académie.
Entre créer une œuvre dans laquelle le monde est entré par votre intuition, par votre vision, Jean-Michel Autoniel, et parler à des autorités ou à des responsables politiques, est-ce qu'il n'y a quand même pas une grande différence ? Est-ce que le rôle de l'artiste est peut-être moins d'être consulté que justement de mettre tout ce qu'il a en lui par la transfiguration qu'est l'art, d'une certaine façon.
Oui, mais ça, c'est, de toute façon, c'est ce qu'on fait tous. Enfin, moi aussi, c'est vraiment l'œuvre qui parle d'elle-même et qui même parle plus fort et plus profond que nous-mêmes. C'est ça qui est important dans une œuvre. Après, se dire que certains artistes ont pu avoir, je sais pas, que je pense à Velázquez qui était ambassadeur d'Espagne. C'est pas que je rêve de devenir ambassadeur du tout. C'est pas du tout ce que je cherche, mais je pense qu'il y a une écoute sensible qui est nécessaire au monde aujourd'hui. Je pense qu'il faut avoir un regard plus sensible.
Sensible, tout à l'heure vous disiez spirituel, vous parliez de la dimension oraculaire aussi de votre travail en référence au titre de la nouvelle exposition que vous présentez à la Galerie Perrotin à Paris. Il y a une dimension religieuse dans la symbolique des fleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et puis en 2007, vous avez dessiné des vitraux dans une église en Normandie. En 2016, vous avez aussi scénographié le merveilleux trésor de la cathédrale d'Angoulême. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire qu'il y a une dimension mystique, sacré dans votre approche de l'art?
Je pense que l'art est sacré de toute façon. Je pense que l'art touche le sacré. Pas le religieux, pour ma part, mais le sacré. C'est sûr qu'on met en avant des moments importants de notre vie et qui parlent à des moments importants de la vie des gens. Je pense que c'est ça qu'on recherche. On recherche de toucher les gens dans leur quotidien, mais d'une façon... de leur apporter, oui, un peu d'espoir. Enfin, en tous les cas, moi, c'est ce que j'espère faire.
On va se quitter en musique avec votre choix musical, Jean-Michel Autoniel. Il s'agit de Glassworks Opening de Philippe Glass. Juste un mot pour nous expliquer ce choix, déjà.
Ce que j'aime dans cette musique, c'est qu'elle est en même temps minimale, conceptuelle, et qu'elle est justement joyeuse et belle. Elle a un rapport très sensuel, malgré son écriture très radicale.
Glassworks Opening, il se trouve que c'est le générique des masterclass de France Culture. Très bien choisi. Très bien choisi aussi Jean-Michel Autoniel parce que ce week-end, la Philharmonie de Paris consacre ses deux jours à Philippe Glass. Il est l'invité d'honneur, invité avec ses propres invités pianistes à jouer ses études, à parler, à expliquer son travail, à raconter comment il crée ses œuvres. Donc week-end spécial Philharmonie de Paris pour Philippe Glass. Merci beaucoup d'être venu nous parler de vos travaux, de votre œuvre, en particulier donc La Rose du Louvre, qui sera à partir du 24 mai jusqu'au 24 février 2020, on a vraiment le temps d'aller l'admirer au Louvre. L'Herbier Merveilleux, et c'est un livre paru en coédition au Musée du Louvre Actes Sud. On peut voir Oracle à la Galerie Perrotin jusqu'au 8 juin. Et puis pour ceux qui peuvent voyager, on peut aller à Doha, à Buenos Aires à partir du 7 juin, à Houston, où vous êtes aussi jusqu'au 4 août. Et un peu plus près de nous quand même, à partir du 20 août, c'est cet été, vous serez au puits Sainte-Réparade avec les singulière. On voyagera quand même à ce moment-là.
Au château Lacoste, qui est un endroit formidable.
Ah ben voilà, et donc il faut y aller aussi. On mettra évidemment toutes ces références sur notre site internet pour tous ceux qui n'avaient pas de stylo. Il est quand même très tôt. Merci beaucoup d'être venu en tout cas ce matin.
Merci à vous.